En ce 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau décrétée par l'ONU, Fréquence Mistral a l'honneur de recevoir des représentants des collectifs qui militent pour l'eau publique. Claude Testaner pour Eau publique, Camille Feller qui représente Eau publique Leurfort-Calquier, Kéroane Leroux pour L'eau pour tous, Jabron-Lure. Bonjour.
Bonjour, Léa. Bonjour aux auditeurs.
Est-ce que vous pouvez nous parler du communiqué intercollectif que vous avez publié, Claude?
Donc, bonjour aux auditeurs. Je dois dire un chapeau le plaisir qui est le mien d'être ici, puisque le 31 octobre 2017, avec mon ami Xavier Lenné, nous avions le micro de Fréquence Mistral qui se tendait vers nous, parce que cela correspondait à la création de notre collectif pour le retour en régie publique de l'eau, sur Manosque et la DLVA, et ces choses faites. La régie publique, depuis le 5 janvier 2024, c'est donc que tous les combats valent d'être menés. La preuve, ils peuvent être victorieux. Alors c'est vrai que nous profitons de ce 22 mars qui a été décrété Journée mondiale de l'eau par l'ONU dans les années 90 pour faire en sorte que les 5 collectifs du département et qui œuvrent autour de la thématique de l'eau, alors chacun avec une entrée, c'est-à-dire nos amis de Lure Vanson Durance, pour faire en sorte que ce soit les collectivités locales qui gardent la maîtrise de leur gestion, tout comme nos amis de Lure Fort Calquier. Pour le collectif, c'est avec la perspective d'avoir une tarification sociale de l'eau et une gestion plus démocratique du bien, tout en préservant aussi la qualité de l'eau sur le coin, et ainsi que pour nos amis de Éco-Raison, autre association, et que l'éco-syndicat Riverain Ensemble Durance. Voilà, donc nous avons réussi à faire un communiqué commun en cette journée où le focus, nous pensons, sera donné sur la question de l'eau en ce 22 mars, journée mondiale.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler l'historique de pourquoi aujourd'hui on a tous ces collectifs? On sait qu'il va y avoir le passage en DSP en 2026. Kéroane Leroux, est-ce que vous pouvez nous présenter les enjeux aujourd'hui? Pourquoi on entend beaucoup parler des mobilisations autour de l'eau?
Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, notre communauté de communes a décidé d'anticiper un transfert de compétences obligatoire. Le transfert de compétences obligatoire, il est pour 2026. Ils ont décidé de l'anticiper à 2023, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Ce qui nous a fait nous mobiliser, c'était que la conséquence directe, c'était la privatisation de la gestion, un contrat signé avec le seul prestataire, la seule entreprise qui s'est proposée, c'est-à-dire la SEM, Société des Eaux de Marseille. Et donc c'est plutôt cette chose-là qui nous a mobilisés. Et à la suite d'avoir contacté la totalité des élus qui ont bien voulu nous recevoir, c'est-à-dire les trois quarts des maires, on a réussi au moins à convaincre certains, et donc on a eu une majorité de maires qui se sont prononcés pour repousser cette décision. On n'a pas obtenu le fait d'aller vers une régie publique, d'aller vers une gestion publique, mais au moins de repousser le transfert de compétences et le contrat prévu au 1er janvier 2023.
Pour avoir lu, Madame Feller, le tract qui a été assez distribué dans le département au public Leurfort-Calquier, c'est très bien expliqué la différence entre délégation de services publics et privatisation. Dans certaines communes, ça a été un petit peu...
Oui, là, par rapport à ce qu'a dit Kéroane, beaucoup de gens prennent conscience avec le transfert obligatoire de la compétence eau et de la compétence assainissement aux communautés de communes. Bon, pour l'instant, la loi notre le prévoit comme ça. On espère qu'elle soit infléchie dans l'année en cours. Ça fait que les gens se mobilisent puisqu'ils comprennent que cette ressource qui est primordiale pour l'avenir, ils risquent d'en être dépossédés, comme l'a expliqué Kéroane, au profit de multinationales. Quoi. En tout cas, la SEM, c'est quand même une filiale de Veolia. Et c'est ce qui a fait aussi que sur notre territoire, les gens ont réagi, puisque actuellement, presque toutes les communes, puisqu'il n'y en a que trois qui sont en DSP, avaient une gestion qui était en régie communale. Et donc, par les employés communaux, les élus, tout ça. Et puis là, donc, il y a l'OPA un peu de la SEM sur nos réseaux, sur notre système de gestion de l'eau, quoi. C'est ce qui explique la mobilisation. Mais après, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que l'eau, ça va être vraiment un enjeu d'avenir, quoi. Aussi bien pour la qualité que pour la quantité, que pour le partage des usages.
Il y a deux choses. Il y a d'une part le contexte actuel politique qui amène au transfert de compétences, et d'autre part, il y a la question des principes, et plus généralement du développement durable, de la question de la pollution globale. Et aujourd'hui, vos mobilisations s'inscrivent dans ces deux choses-là. Monsieur Testanien, est-ce que vous voulez revenir sur du coup les grands principes que vous défendez? C'est très intéressant de voir une mobilisation intercollective et un communiqué commun avec autant de personnes.
Disons, si les cinq collectifs ont réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun, c'est que d'abord, il est plus aisé d'agir sur la question de la qualité de l'eau à partir du moment où ce sont les localités, les communes, qui ont la responsabilité de cette gestion publique. À partir du moment où on la délègue à des multinationales dont le bénéfice recherché, c'est la conquête de profit, on ne peut pas estimer qu'ils mettent en priorité la qualité de l'eau servie, pas plus qu'une tarification sociale. D'ailleurs, j'aborde la question de la tarification sociale. Pourquoi ? C'est pas une vue de l'esprit. C'est possible. Ça existe depuis une quinzaine d'années dans le Dunkerquois. Ça existe à Roquevert. Ça existe à Montpellier depuis l'an dernier. Ça existe à Lyon depuis cette année. Donc, on peut parvenir à faire en sorte que l'eau, bien commun, 3 jours sans eau, on meurt, 12 mètres cubes, les premiers 12 mètres cubes peuvent être gratuits. Qui peut offrir cela ? Si ce n'est une régie publique de l'eau. Parce qu'une multinationale mettra toujours en avant la recherche du profit. Donc c'est impensable. Voilà pourquoi ce qui prime, c'est la question de la régie publique. La deuxième chose, sur la question de la qualité de l'eau, et notamment la protection des captages. Nous avons une illustration locale, puisque c'est en 2022 qu'il y a eu une pollution de la source de Laga au Castellet. Ça a eu 2 effets. D'abord parce que nos amis du Castellet n'ont plus pu boire cette eau parce que polluée. Et deuxièmement, ça a eu un coût, puisqu'il a fallu amener au Castellet de l'eau venant d'Oraison, et on en a eu pour 1 200 000 euros. Qui a payé cela? Ce sont les usagers et les abonnés de la DLVA. Donc on voit bien qu'il y a également en amont la nécessité de faire en sorte de préserver les sources de captage. Et par exemple, il y a depuis 2013, je crois, des déclarations d'utilité publique sur des zones de captage, et il y a encore beaucoup d'efforts à faire, puisque s'il y a peu de déclarations d'utilité publique et d'arrêtés préfectoraux signés, quand bien même ils sont signés, ils ne sont pas suivis d'effet, par exemple, par la mise en place des mesures de protection. Donc on voit bien que le combat n'est pas terminé. Et moi, je veux conclure là-dessus, c'est un peu le sens de la conclusion de notre communiqué commun, c'est qu'on appelle les usagers, les citoyens et les citoyennes à s'emparer des dossiers, à rejoindre nos collectifs, parce que rien ne se fera sans eux.
La question de l'eau a quand même eu une grande médiatisation et un grand intérêt dans le département. L'été dernier, la pétition au public Le Refort Calqué a été très très diffusée, il y a plus de 1000 signatures il me semble. Les soirées de l'eau publique Fort Calqué avec la transmission du documentaire Water Makes Money, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont fait carton plein. Madame Feller, à ce sujet, vous sentez aujourd'hui l'engouement des personnes et comment...
Oui, les gens comprennent l'enjeu et sont mobilisés. Et c'est vrai que la pétition, comme vous l'avez dit, avait déjà eu 1300 signatures sur le territoire de la communauté de communes qui compte à peu près 10 000 habitants, ce qui effectivement est beaucoup. Et puis les soirées ont été un grand succès et ça a questionné les gens et les gens s'intéressent à ce sujet. Et là, le combat continue, puisqu'il y a des mobilisations dans chacune des communes. Il y a des collectifs de citoyens, cette fois-ci communales, qui vont discuter avec les élus. Déjà pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la position de leurs élus. Et puis, ils s'approprient le sujet. Donc, c'est vraiment très, très satisfaisant, effectivement, de voir que les gens se comportent comme des citoyens actifs et pas que comme des consommateurs.
Il faudrait qu'il faut se rendre compte que la communauté de communes, elle gère beaucoup de choses et assez peu de choses qui sont connues du public. Ce qui est marquant pour moi, c'est que ce soit à Fort Calqué ou sur notre communauté de communes Jabron-Lure, Vincent-Durance, c'est le seul sujet qui a mobilisé sur les deux communautés de communes. C'est-à-dire que le public est venu, ou même on va dire plutôt sous forme de manifestation, le jour du vote. Et uniquement ce jour-là, il n'y a jamais de public en général dans les conseils communautaires. Et ce sujet-là, il a réussi à mobiliser plusieurs centaines de personnes le jour du vote, uniquement sur ce sujet. Donc je pense qu'il faut se rendre compte de cet enjeu. Il est financier, il est écologique, mais il est aussi très symbolique. Et à mon avis, c'est ça qui a fait que ça draine beaucoup de personnes autour de ce sujet.
On voit aujourd'hui que les communes qui ont privatisé, les grandes métropoles, etc., reviennent à la régie publique pour des questions financières. La financiarisation de la gestion de l'eau pose problème parce qu'elle devient rentable au bout d'une soixantaine d'années.
Disons que si les multinationales se sont emparées de la gestion de l'eau, c'est parce qu'elles étaient sources de profit. Des années, la SOR, la Suez, Veolia se sont gavées et ont gavé de dividendes de leurs actionnaires. Et on le voyait où? dans les grandes collectivités. Parce que, un exemple, sur un kilomètre linéaire de tuyaux, quand vous avez 150 abonnés, ça commence à être rentable. La SOR, Veolia, Suez n'avaient aucune appétence pour aller privatiser l'eau de Brunet. Ils sont 5 au kilomètre. Il faut bien mesurer cela. Oui. Par contre, il y a le sens de l'histoire est là. Alors, le sens de l'histoire a deux bouts. Je rappelle quand même que les communes, ce terme de commune, s'est créé autour de la gestion des biens communs qui étaient l'eau, les pâtures et les bois. Et c'est autour de ces communes que les villages se sont construits. Et se sont construits autour des sources, autour des lieux d'eau. Donc c'est aussi pour poursuivre dans le sens qu'avait Kérouane tout à l'heure, c'est-à-dire comment les citoyens se sont emparés de l'eau. Parce que c'est vital. C'est l'histoire qui est là. Maintenant, pour revenir sur la question des multinationales, le sens de l'histoire est là. C'est-à-dire, petit à petit, les citoyens, et quelle que soit la couleur politique, quelle que soit l'idéologie, reviennent à une régie publique. Si on regarde nos voisins, de Beaumont de Pertuis jusqu'à Mérindol, ils sont en régie publique, dans Durance-Luberon. Si on regarde la communauté d'Aix, ils sont en régie publique. La métropole de Nice, après Nice avec M. Estrosi, sont en régie publique. Château-Arnoux, Digne, Provence-Alpes-Agglomération, est en régie publique. Manosque DLVA est aujourd'hui en régie publique. C'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire la réappropriation par les citoyens de la gestion de ce bien qui est indispensable à la vie.
Aujourd'hui, il y a deux choses, il y a le gaspillage de l'eau et aussi la question de la hiérarchie des usages de l'eau, parce qu'aujourd'hui, c'est comme le reste des ressources naturelles, une ressource qui devient en tension, on a parlé de la pollution, mais il y a d'autres enjeux. Rarification des ressources.
Oui, il y a une rarification des ressources et en même temps, dans les ressources telles que nous les avons, on a vu par exemple qu'il y a une protection des captages qui doit être faite, puisque nous avons actuellement, en termes de procédure de protection des captages, un indice de 41% sur le bassin Manosque DLVA, et je crois que ça vaut aussi pour P2A. Alors que l'indice de protection pour la moyenne nationale est à 77%. Donc, on a des marges de progression. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que sur l'utilisation des produits phytosanitaires, pesticides, insecticides, il va falloir faire attention parce que les ressources, encore une fois, ne sont pas si nombreuses que cela. Du côté de Fort-Calquier, il y a des sources qui, sur les 20 dernières années, se sont taries. Donc il va falloir faire attention aussi parce que plus en plus de monde, moins de ressources en eau, ben, il va falloir travailler sur les pertes en réseau. Donc sur les fuites, et il va falloir travailler sur la protection des captages et sur ce qu'on appelle les effluents qui sont dispersés dans la nature. Voilà. Et en même temps, sur la consommation individuelle, non pas l'austérité, mais faire attention. Et d'ailleurs, à ce propos, la question de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau s'est traduite par exemple à Libourne, par une baisse de la consommation par ménage. Donc, c'est vertueux. C'est vertueux d'un point de vue économique pour chacune des familles, mais c'est vertueux également globalement, puisqu'on consomme moins d'eau.
Notre collectif, il est vraiment axé sur les réseaux d'alimentation en eau potable ou de l'assainissement, et qui les gère, qui prend les décisions autour de ça. Et là-dessus, c'est pas le même sujet que celui des agriculteurs et de la quantité d'eau prélevée par les agriculteurs. C'est vraiment d'autres institutions qui le gèrent. Et c'est pas que ce soit pas important, mais c'est que il faut bien comprendre que c'est des sujets distincts. Donc voilà, nous, c'est vraiment les réseaux d'eau d'alimentation des maisons, qu'elles soient primaires ou secondaires, et la gestion publique, avec comme conséquence, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, être plus précis sur la question de la tarification. Donc Claude a parlé de la tarification sociale. Il y a aussi quelque chose qui est approchant, mais qui est important de comprendre, c'est que plus les communes sont rurales et plus les taux de maisons secondaires sont importants. Donc la question de l'abonnement a des conséquences très importantes sur les recettes globales. C'est-à-dire que moins il y a d'abonnements, quand il y a beaucoup, beaucoup de maisons secondaires, quand on arrive à 50-60% de maisons secondaires, les recettes pour les finances publiques chutent drastiquement. Si le niveau de l'abonnement, si le coût de l'abonnement est très très faible, la conséquence, c'est que les recettes pour le gestionnaire sont très très faibles, puisqu'il y a 50 à 60% de maisons secondaires qui consomment 3 à 5 mètres cubes les 4 jours d'été où ils viennent. Et ça pose un double problème, une baisse des recettes pour le gestionnaire, qu'il soit public ou privé, mais en l'occurrence on espère qu'il soit public, et aussi le fait qu'on ne surfacture pas les quelques mètres cubes qui sont précisément ponctionnés au moment où il ne faut pas, c'est-à-dire en été. Donc ça, c'est pas la question, c'est pas de dire qu'on va arrêter d'approvisionner en eau les maisons secondaires, mais par contre que une différence de tarif est complètement souhaitable sur un plan économique, social, écologique, par la ponction de l'eau au moment le plus défavorable. Sur le plan de l'eau, c'est quelque chose de saisonnier. Il y a 4 mois, disons tendus, difficiles, 4 mois où il faudrait faire plus attention, et c'est les 4 mois où on a la saison touristique, donc ça remplit les gîtes et donc ça peut doubler la consommation de certaines communes, cumulé aux maisons secondaires, cumulé à l'arrivage des familles et des gens qui viennent chez les maisons, personnes qui habitent à l'année. Donc le tout, ça fait qu'on double, parfois on triple la consommation pour les petites communes au minimum. C'est moins vrai dans les villes.
Je vous propose d'écouter, pour rester dans la thématique, Imani, les voleurs d'eau.
Il détourne la rivière, là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler. Assez, gringo, nos terres sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est tout qui leur donne tous les droits sur nous, sur nous. Ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville? Tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Pour l'eau, pour l'eau, de l'eau, de l'eau.
Alors, sur l'argument de la hiérarchie des usages de l'eau, en fait. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur la question.
C'est ce que nous mettions dans le communiqué, c'est-à-dire le premier des besoins, c'est la vie biologique. Hein. Je rappelle quand même que 3 jours sans eau, on meurt. Quand on perd 1% d'eau, on a l'impression de soif. À 8-10%, on est dans le coma, et à 12% de perte d'eau, on est mort. Donc, la vie biologique, c'est quand même le plus important. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est la conservation de l'eau, mais par les nappes phréatiques, hein, ne parlons pas des méga-bassines, hein, surtout, la conservation de l'eau. Ensuite, il y a l'agriculture et l'industrie, puisque l'agriculture a des besoins d'eau, l'industrie aussi, pour refroidir, pour faire tourner un certain nombre de dispositifs. Et ensuite, il y aurait ce qu'on appellerait les eaux de confort, ou les eaux du luxe, quoi. Mais c'est ce que nous entendons par la hiérarchie des besoins.
Vous êtes accordé dans le communiqué, c'est donc pérenniser, augmenter les moyens de l'Office du français de biodiversité, oui. Les agences de l'eau. Est-ce que vous pourrez détailler pour ceux qui ne connaissent pas quelles sont les missions et le rôle de ces institutions publiques?
Je suis extrêmement gêné pour donner plus de détails là-dessus. Ce que je sais, c'est que sur l'agence de l'eau, il y a eu des suppressions budgétaires dans les dernières années qui ont fait que ce sont des restrictions ministérielles, hein, dans le cadre du budget de l'État, qui ont fait que ça a imputé un certain nombre de missions de la part de l'Agence de l'eau. Quant à l'Office français de la biodiversité, il mériterait d'avoir davantage de moyens pour mener à bien ce travail de surveillance. Je parlais tout à l'heure de la déclaration d'utilité publique au suivi des arrêtés préfectoraux et de l'arrêté des arrêtés préfectoraux à la mise en place des mesures qui s'imposent. Puisqu'on peut avoir toute la réglementation qui soit développée, mais ensuite, faut-il encore qu'elle soit respectée? C'est un petit peu comme si vous avez un stop, mais que personne ne fait respecter le stop, c'est comme s'il n'y avait pas de stop. Permettez-moi cette image peut-être un peu...
Oui, non, mais c'est
un peu ça, quoi. On se comprend, okay. Donc voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait des moyens donnés à ces deux organismes.
Pour l'Agence de l'eau, en fait, c'est payé par la facture, sur les factures de tout un chacun. Il y a des taxes qui sont prélevées et qui sont reversées à l'Agence de l'eau. Le problème, c'est que dans ces recettes, donc générées à l'Agence de l'eau, il y a une partie de ces recettes qui a été prise pour payer les parcs nationaux, pour payer les chasseurs, alors que normalement, l'eau doit payer l'eau. Et puis, il n'y a personne qui est exonéré de payer ces taxes. Autant on a fait cadeau de la taxe d'habitation à beaucoup de gens, autant les personnes, même les plus modestes, quand ils utilisent un mètre cube d'eau, ils doivent payer des taxes à l'Agence de l'eau. Quoi. C'est un impôt direct, là, pour le coup, mais qui n'est pas qui est progressif par rapport à la consommation, mais qui n'est pas progressif par rapport aux revenus. Et c'est vrai que même les élus étaient quand même scandalisés, parce que l'Agence de l'eau aide les communes à faire des travaux dont parlait Claude, par exemple, pour protéger les captages ou pour rénover une station d'épuration. L'Agence de l'eau nous donne des subventions, mais qui en fait correspondent à ce que pendant des années, nous, on a aussi versé à l'Agence de l'eau. Et on était quand même scandalisés de voir qu'une partie de cette manne financière soit détournée à des choses qui n'avaient rien à voir avec l'eau. Quoi.
Et notamment la taxe qui est la plus étonnante, c'est la TVA, donc même si elle est... pas forte. La TVA est appliquée sur l'ensemble du prix de l'eau, plus les taxes, et donc ça représente 5% du prix. Mais c'est vraiment une question de savoir si c'est justifié sur cet usage-là.
Oui, je voudrais donner une illustration, par exemple.
Allez-y.
À Entrevennes, il y a 2 sources qui ont été sorties du réseau d'eau potable en 2006, donc elles n'abondent plus la commune, suite à la pollution par des produits phytosanitaires. Elles ont fait l'objet depuis 2021 d'un arrêté définissant l'aire d'alimentation, la zone de protection et le programme d'action qui visait le retour et le maintien de la qualité des eaux de ces sources, mais aucune mesure ni équipement n'a encore été mis en œuvre depuis. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, OFB, ADEME, etc., arrêtés préfectoraux, sauf qu'après, quid, il ne se passe rien. C'est sur cela que nous alertons aussi. Et puis, sur la question des fuites, nous avons des localités sur nos communautés de communes qui en sont à 40% de rendement. Or, je vous disais tout à l'heure en aparté, il y a une commune, moi je la cite parce qu'elle n'est pas dans notre département, elle n'est pas dans notre communauté, c'est Sigoyé. Ils arrivent à 95% de rendement. Donc, quand il y a une volonté politique locale, on peut le faire. qu'on exhorte à faire nos élus sur ce domaine-là. Quoi. On peut le faire.
Après, ce qui est un peu triste dans le cas de Sigoyer ou dans d'autres cas, c'est que quand tu dépasses 80% de rendement, eh tu as moins d'aide de la langue de l'eau pour renouveler tes conduites. Ce qui est quand même un peu le dommage. Parce qu'on, oui, on devrait quand même aussi aider les bons élèves.
Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que vous représentez trois collectifs qui sont différents, qui ont une histoire différente, plus ou moins anciens. Donc vous, il y avait le collectif qui a milité pour Manosque, monsieur Testanière. Quelles sont aujourd'hui les convergences, les divergences? Où en êtes-vous?
Il n'y a pas de divergence. Nous existons depuis 2017. Je suis le grand-père. Je crois même qu'autour de la table, je suis l'aîné. C'est dire tout ce que nous pouvons dire. C'est à nos auditeurs, aux citoyens qui nous écoutent, aux usagers, aux abonnés, c'est que quand on est parti dans notre bataille, on n'était pas sûr de gagner. Mais si on ne se battait pas, on était sûr de perdre. Donc voilà ce que je dis quoi, aux auditeurs. Rejoignez les collectifs ou publics Montagne de Lure si vous êtes dans une de ces localités. Rejoignez les communes de Montagne, Durance, Vinson, Jabron si vous êtes de ces localités. Et poussez à la roue, quoi. Agissez, parce que rien ne se fera sans vous. Et c'est la leçon de l'histoire de nos 7 ans de nos combats, qui n'ont pas toujours été simples, mais qui nous ont permis de faire, disons, de grandes rencontres, des discussions intéressantes, des mobilisations géniales aussi, et puis à la fin, on a gagné. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout gagné? Bien sûr que non. Des combats restent.
La victoire pour le retour à la régie publique pour la DLVA booste, enfin vous donne espoir à vous qui militez oui, aujourd'hui en vous rendant compte que c'est possible dans le département. Enfin,
plus que possible, quoi. Parce qu'en fait, c'est plutôt la volonté de déléguer la gestion qui est une exception. Donc nous, sur nos deux communautés de communes, Fort-Calquier ou
Jabron,
Lure, Vinson, Durance, on est plutôt exceptionnel finalement dans le 04 et on a assez de comparaisons de communautés de communes qui s'y sont pris autrement pour espérer que ces communautés de communes finissent par faire un autre choix. Et donc voilà, nous c'est vraiment notre principale argumentation, c'est de dire regardez ce qui s'est fait à côté, dans le cadre de la loi NOTRe, dans le cadre du transfert de compétences, on n'est pas obligé d'avoir un seul mode de gestion unique sur une communauté de communes. C'est tout à fait possible d'en avoir deux. S'il y a une commune pour laquelle la délégation de services publics est tout à fait juste et proportionnée ou qu'il y a une volonté politique de la conserver, c'est tout à fait possible. Ça n'empêche pas qu'on peut permettre à ceux qui ne la veulent pas d'avoir une gestion publique. Qu'elle soit intercommunale, ça c'est plutôt souhaité, souhaitable. Ça permet, dans le cadre d'interconnexion, de mettre de l'eau dans une commune qui est en déficit si jamais la connexion s'est faite à temps. Ce qui est arrivé, nous, sur notre territoire entre Noyer et Bevon, on a une commune dont la source était trop faible. Là, par rapport à la consommation, c'est grâce à une interconnexion que l'ensemble des habitants de cette commune ont pu avoir de l'eau durant l'été dernier. Donc ça, voilà, la gestion intercommunale, elle est vraiment souhaitable. Par contre, le fait d'imposer un contrat au niveau communautaire contre l'avis des maires ou des communes qui souhaitent vraiment rester en gestion publique, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revenir en arrière.
Oui, ben, c'est pas très démocratique. Après, moi, ce que je dirais par rapport à... Donc, effectivement, nous, on est assez récent comme collectif, mais... En fait, on a eu vraiment la chance de trouver de l'appui sur des gens qui avaient plus d'expérience, des gens compétents, des gens loin de notre territoire, parce que ce n'est pas une lutte politique. Hein. C'est ce problème, il est général en France. Et c'est vrai que quand on est en contact avec des élus qui, de Lyon, de Marseille, ou des choses, ça met aussi une hauteur dans le débat. Et ça montre effectivement qu'on est dans une situation tout à fait paradoxale, puisque la plupart des grandes collectivités réussissent à se débarrasser de leurs délégataires. Ils sont contents de se débarrasser de leurs délégataires. Et on a l'impression que la SEM, donc Veolia, n'a plus qu'à venir dans les petites cours. Toutes petites communes qui n'ont pas compris que ce n'était pas très intéressant parce que ce que vous disiez, ben forcément, pour amortir des investissements, c'est assez long. Donc, faire venir un délégataire en lui disant « mais vous venez que pour 5 ans », c'est évident qu'il n'a aucun intérêt à investir et à réparer les réseaux d'ici là. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment vivifiant comme combat et je ne suis pas la seule. Je pense que les personnes... Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de retours positifs des personnes qui sont venues au débat qu'on a organisé, quoi. Et les gens sont quand même contents qu'on se soit saisi de ce dossier-là. Et puis nous, ça nous a permis aussi de trouver des solutions. solution, de comprendre que si on adhérait à un syndicat, ben, on pouvait conserver une gestion publique, des choses comme ça, que si on était resté tout seul dans notre coin et si on ne s'était pas mobilisé, ben, on n'aurait pas su et on serait parti contre notre gré à la SEM. Mais de toute façon, même dans d'autres communautés de communes où actuellement le transfert se passe, c'est vrai que ça intéresse les élus de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc ce regroupement entre collectifs, il est tout à fait naturel.
Pour donner un exemple juste des conséquences de la privatisation, ou en tout cas du contrat qui était prévu pour nous en 2023, tarif à l'époque était de 3,08 €. Et une fois le contrat signé, y compris l'encadrement du prestataire, parce qu'il faut quand même payer quelqu'un de la communauté de communes pour encadrer le prestataire, la conséquence, c'était un prix de l'eau qui augmente de 63% à 5 € le mètre cube. Donc actuellement, on a une eau qui est peut-être pas assez chère, en tout cas qui est largement inférieure au prix national comme régional. Par contre, après privatisation, c'était largement plus cher. Le prix moyen, il est de 4,26 €. Donc voilà, avec 5 €, on voit qu'on était largement au-dessus. Et c'est d'ailleurs, je pense, le principal argument qui a fait reculer à l'époque nos maires.
Je vous propose d'aller vers la conclusion. Donc d'une part, les références, on les mettra sur le site internet. Hein. Les références, si on veut vous contacter, si on veut trouver des informations pour rejoindre les différents collectifs. Si les auditeurs, auditrices souhaitent avoir plus d'informations ou même rejoindre plus activement les collectifs. Oui, dire en quelques mots, résumer très simplement, renvoyer aux références si on veut approfondir, et voilà.
C'est la phrase conclusive de notre communiqué commun. Rien ne se fera sans vous, usagers de l'eau, abonnés, auditeurs de Fréquence Mistral aujourd'hui. Rien ne se fera sans vous. Aussi, nous vous appelons à soutenir nos combats et à rejoindre nos associations, dont la liste suivra. C'est-à-dire Au Public, l'Urofort-Calquier, Régie publique de l'eau sur Manosque et la DLVA, collectif Eau pour tous pour Jabron, Lure, Vincent, Durance, Éco-Raison et Riverain Ensemble Durance.
Moi je dirais pour que les auditeurs restent des usagers, ils ne deviennent pas des consommateurs, donc pour qu'ils restent dans un service public. Et nous préparons donc notre collectif une soirée à Fort-Calquier, qui sera une grande soirée de mobilisation et qui sera ouverte évidemment pas qu'aux gens de notre communauté de communes, parce que la communauté de communes, en tout cas d'à côté, Man aussi, doit se préparer au transfert, donc ça intéresse au-delà de la communauté de communes.
Mais... La date ?
Non, la date n'est pas encore connue, mais le lieu, ça sera sur Fort-Calquier. Quoi.
Et enfin, pour le collectif Eau pour tous, vous pouvez nous contacter, nous rejoindre si vous avez du temps et la possibilité de le faire, mais de manière moins active, tout simplement d'aller voir votre maire ou d'envoyer un mail ou de lui signifier que, en fait, vous êtes contre le principe, en dehors de la connaissance précise des chiffres, etc. Mais c'est important que nos maires se rendent compte du fait qu'il y a 90-95% de la population qui s'oppose à ces projets-là. Donc simplement de lui signifier, c'est déjà quelque chose de simple, de rapide et qui peut peser.